Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans La France bouge. Nous avons une heure pour trouver des solutions, pour découvrir des talents, de l'audace, des idées, des femmes et des hommes qui accompagnent les changements de notre société. La France bouge, c'est votre rendez-vous des entrepreneurs et de nos pépites françaises. Au sommaire de votre émission, le pouvoir d'achat au cœur de nos préoccupations. Pendant la campagne présidentielle, la thématique était de loin en tête des préoccupations des Français. Elle est bien partie pour le rester. Alors, les Français estiment manquer de 490 € par mois en moyenne pour vivre convenablement. Comment faire ses courses ? Notre invité a mis en place un bouclier tarifaire sur 120 produits du quotidien. Michel-Édouard Leclerc, président du comité stratégique des centres Leclerc, est l'invité exceptionnel de La France bouge. À la une donc, notre pouvoir d'achat aussi dans l'énergie. On a trouvé un comparateur de prix et une solution pour réduire sa facture énergétique jusqu'à 10% de moins, c'est HelloWatt. Ensuite, on va découvrir la petite budgéteuse. Elle a commencé sur Instagram et à force de conseils et de succès, aujourd'hui, elle a sa start-up pour aider justement à la gestion du budget. Le pitch des trophées Europe 1 de l'avenir avec notre partenaire la CCI et Nathalie Carré. Bonjour Nathalie.
Bonjour Elisabeth. Alors aujourd'hui, on reçoit Studéco. C'est une solution pour que les étudiants aient des réductions eux aussi.
Eh bien, rendez-vous à 13h45 pour les découvrir. Et puis en fin d'émission, Demain au travail, une entreprise met en place des initiatives, elle aussi, pour améliorer le pouvoir d'achat des salariés. Elle s'appelle Woupilo et on leur passera un petit coup de fil. C'est ça, La France bouge. Bienvenue. Vous pouvez nous suivre en direct sur Europe1.fr. C'est parti, nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
Europe 1.
Toutes ces entreprises qui innovent, ces initiatives positives, c'est ici à La France bouge. Et aujourd'hui, émission spéciale consacrée à notre pouvoir d'achat. Quelle solution pour l'augmenter, ce pouvoir d'achat ? Comment acheter ? Pouvons-nous encore épargner ? On va en parler jusqu'à 14h avec un acteur majeur en France en matière de pouvoir d'achat. C'est vous, Michel-Édouard Leclerc. Bonjour.
Bonjour, merci de m'avoir invité.
Bienvenue dans La France bouge. Vous êtes le président du comité stratégique des centres Leclerc. Alors l'inflation, on est à 4,8% sur un an. Rien que sur l'alimentation, on est à plus 6%. Michel-Édouard Leclerc, c'est quoi la situation réelle à travers vos yeux?
Alors, l'inflation est un phénomène mondial. Il a des causes multiples. Le principal de l'inflation qu'on a en France aujourd'hui n'a rien à voir avec la guerre en Ukraine. Ça, ce sera pour une couche
supplémentaire,
juillet,
etc. Rien à voir avec la guerre en Ukraine, pourtant c'est ce qu'on
ouais, tout le monde
dit
a,
tous les
bah,
jours.
Tous
hein.
les gens qui se sont trompés, qui n'ont pas vu l'inflation venir, réinitialisent leur discours en disant que c'est à cause de la guerre. Mais rappelez-vous, le prix du gasoil a augmenté de 50 centimes dès décembre. Et c'est ce qui a valu aussi que le gouvernement mettre en place des mesures de 18 centimes de réduction d'impôts, enfin, ou de taxes.
Oui, depuis le 1er avril.
Le bouclier énergétique par le gouvernement ne date pas de la guerre en Ukraine, c'était bien avant. Et non, enfin, chacun se raconte son histoire, chaque corporation s'abrite derrière une histoire pour repasser ses factures, un peu comme la patate chaude. Moi, ce que j'apprécie dans votre émission, c'est cette espèce de positivité qui doit nourrir l'action. Et je pense que c'est sûr qu'on va avoir une inflation de l'ordre de 6 à 7% à la fin de l'été, tout produit confondu.
Donc on en est au début de quelque chose.
On est au milieu de quelque chose. Mais par contre, il faut que chacun prenne sa part. Et surtout, c'est pas inéluctable des gros chiffres. Déjà, d'ailleurs, la France fait mieux la plupart des pays européens avec qui nous échangeons commercialement, donc c'est un avantage. Mais je pense que chacun, si chacun négocie un peu son amont, les factures, je pense que du coup, ça fait moins de charges pour le consommateur. Parce que l'inflation, c'est un impôt hein, pour les consommateurs. Donc, moi, je pense que les distributeurs français, que ce soit Leclerc, Intermarché, Système U, tout ça, on va se fighter au meilleur de nos propositions commerciales, chacun d'entre nous. Mais je pense que les industriels aussi, il faut qu'ils prennent leur part. Et puis après, l'État, effectivement, accompagnera avec un chèque alimentaire, des offres ciblées.
Donc si on vous comprend bien, Michel-Édouard Leclerc, il y a vous, du côté de la grande distribution, il y a les industriels et il y a le rôle de l'État. Justement, l'État, Bruno Le Maire l'a dit, le pire est devant nous. Vous approuvez?
En tout cas, on est à la moitié du chemin.
Oui.
Est-ce que vos alliances locales, justement, vous aident? Parce que vous parlez des industriels, c'est-à-dire transformation, vous avez des alliances locales, mais beaucoup d'autres enseignes. Est-ce que ça vous aide? Parce que du coup, on a moins de transport, il y a donc moins d'énergie consommée, ça vous aide à garder des prix intéressants?
Alors, on est dans une logique de relocalisation. Mais bon, on peut pas.
Oui, produire, on peut pas tout.
On peut pas produire. C'est plus facile de produire des fraises à Marseille que dans le nord de la France, enfin, etc. Pardon, s'il y a des jolies fraises dans le nord, mais ce que je veux dire, c'est que faut être intelligent. Non, ce qu'il faut voir, c'est que chacun a un rôle à jouer. Et nous, nous avons choisi. Vous savez que le gouvernement a demandé à tout le monde de renégocier les relations industrie-commerce pour laisser passer des factures. C'est vrai que tout le monde a les factures d'électricité, d'énergie, de transport qui augmente. Donc, nous négocions.
Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous rencontrez Nestlé, vous leur dites là, il faut se calmer, là.
Alors, déjà...
Vous leur dites non, on ne va pas augmenter vos produits.
Déjà,
quand vous rencontrez les industriels.
Toutes les petites entreprises, les PME françaises, les produits agricoles, sont protégés par une loi qui s'appelle la loi Egalim 2. C'est Julien de Normandie qui en est à l'origine et qui fait que là, on va laisser passer l'inflation, notamment des coûts de production et de la matière première agricole.
Bon, ça ne va pas bouger.
Ça ne va pas bouger. Il faut savoir que le monde agricole a eu 5 ans de déflation.
Oui.
On n'aime pas que tout d'un coup le prix de la viande augmente,
évidemment,
ou le prix du lait,
mais faut payer
on vient de loin. Par contre, des grands industriels multinationaux et 60% de ce qu'il y a dans un Carrefour ou dans un Auchan,
ça vient de
Nestlé, Mars. Et donc là, on discute avec discernement, avec loyauté, mais on leur dit, vous avez annoncé des augmentations de dividendes l'année dernière en pleine crise du Covid, nous aussi d'ailleurs, donc on va prendre chacun une partie, nous Leclerc sur nos marges, et vous allez peut-être verser un peu moins de dividendes, ou en tout cas vous allez les étaler sur 3 ans. Donc on a ces discussions pour étaler l'effet des hausses. Ils ont des factures, ils sont pris,
mais
le prix
aussi,
des conteneurs
ont augmenté, tout le monde est pris.
Et donc les plus puissants et les mieux organisés, il faut qu'ils...
Ils ont des marges de négociation.
Il faut qu'ils fassent tampon. Oui, un grand groupe comme Unilever, comme Procter, comme Nestlé, les grandes marques peuvent différer pour que tout ça ne soit pas un mur d'inflation.
Donc ça va être petit à petit.
Donc voilà, vous dites que ça se fasse tranquillement.
Donc vous dites qu'ils peuvent différer, ça veut dire qu'ils jouent le jeu quand vous leur demandez
de diluer
en quelque sorte cette
inflation. Par exemple, le PDG de L'Oréal n'a pas fait mystère de dire que la force de sa société, sa notoriété lui permet d'étaler ça sur plusieurs années.
Mais même si on étale à la fin de l'année, nos salaires, ils n'auront pas augmenté. Donc même si on étale pour qu'à la fin de l'année, on ait 10% d'augmentation, on va les avoir quand même.
Chacun est à sa place.
Oui, vous ne pouvez pas faire plus que... On est d'accord.
Ce que je veux dire, c'est que la question des salaires et des revenus, d'ailleurs, va se poser, que ce soit les transferts sociaux, les retraites, et je pense que dans le plan du gouvernement, il va y avoir quelque chose là-dessus. Après, il y a aussi la fiscalité, c'est certainement un dossier, le pouvoir d'achat, la fiscalité, le gouvernement va vouloir agir avec. Et moi, distributeur, je ne peux jouer que sur ma marge ou ma capacité de négociation. Et c'est la raison pour laquelle on a pris, dans un premier temps, on a fait des opérations prix coûtant sur les carburants, on a bloqué le prix de la baguette premier prix, ça a fait hurler dans les chaumières.
Tout le monde vous a suivi.
Mais on le tient,
finalement.
Et tout le monde nous a suivi.
Tout le monde vous a suivi.
Et puis, on a fait les repas étudiants à 1 euro, 21 euros.
Non, mais vous êtes toujours.
On essaie de faire des trucs qui... En tout cas, on a 18 millions de consommateurs, on veut les choyer. Hein. Et puis, on a fait un bouclier qui est en fait une assurance que si ces 120 articles parmi les plus consommés en France venaient à augmenter, on restituerait l'écart sous forme de tickets Leclerc, sur le bon d'achat, etc.
Et ça marche, là ?
Oui, ça se met en place. Alors, tout ça est évolutif, ça se met en place. Alors, il n'y a pas d'huile de tournesol dedans, il n'y a pas de sucre parce qu'on n'est pas.
J'ai regardé la liste, justement, c'est quand même très étonnant. Il y a des pizzas, du coca, des M&M, c'est quand même pas des produits essentiels. Alors, il y a aussi des couches, du lait, de l'eau.
Il y a des produits hygiéniques aussi.
Mais est-ce que ça ne serait pas le moment c'est pas essentiel de manger des M&M ou de boire du coca quand on a des difficultés. Est-ce que ce n'est pas le moment de réorienter ainsi un peu la consommation?
Non, justement, ce n'est pas le moment. Et je trouve qu'à vouloir tout faire en même temps,
oui,
c'est une connerie. Pourquoi ? Parce que d'abord, ce côté donner des leçons aux gens, il faut manger ça. Moi, je pense que d'ailleurs, le chèque alimentaire, je suis militant d'un chèque alimentaire pour demain, il faut qu'il soit ciblé. Il faut laisser les gens consommer ce qu'ils ont envie de consommer.
Cette notion de plaisir aussi que vous prenez
en compte. C'est le respect
du
consommateur. Il faut arrêter de lui dire, c'est ça qu'il faut que tu consommes et pas ça. Et en l'occurrence, aujourd'hui, dans les 120 articles de notre bouclier, c'est tiré des panels qu'on appelle Kantar, IRI, etc. C'est les produits les plus consommés en France. Et donc, c'est ça que les consommateurs achètent.
Attends.
Et les plus pauvres comme les plus démunis, il faut d'abord les aider à consommer ce qu'ils veulent acheter.
Vous restez avec nous, Michel-Édouard Leclerc, pour cette émission spéciale pour améliorer notre pouvoir d'achat. Il est 13h12 sur Europe 1.
Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag.
Et si vous nous rejoignez, bienvenue dans La France Bouge, l'émission qui met en avant les entrepreneurs français, nos pépites françaises. Et aujourd'hui, émission spéciale consacrée à notre pouvoir d'achat. Bah oui, on n'arrête pas d'en parler, donc on s'est dit, on va faire une émission, on va essayer de trouver des solutions. Et pour trouver des solutions, évidemment, on est avec Michel-Édouard Leclerc. Hein. Vous êtes le président du comité stratégique des centres Leclerc. Quelle solution pour le pouvoir d'achat? On en parle depuis le début de l'émission. Et quand on dit pouvoir d'achat, on pense aussi immédiatement au prix de l'énergie. On pense à notre quotidien, on pense à notre consommation à la maison. Alors, entre l'ouverture à la concurrence pour les particuliers, la transition énergétique, comment s'y retrouver pour réduire sa facture d'énergie? Quelles sont les aides de l'État? Comment mettre en place des économies d'énergie? On a une réponse, évidemment, dans La France Bouge, grâce à vous, Sylvain Lefalère. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes le cofondateur de Hello Watt. C'est un site internet, une application pour réduire sa facture d'énergie. Vous accompagnez, vous donnez des conseils aux particuliers. En gros, c'est ça, c'est-à-dire que vous êtes un conseiller énergie.
Exactement, donc on les accompagne dans toutes les démarches qui sont liées à leur logement pour réduire leur facture et leur consommation d'énergie. Mmh. Donc concrètement, il y a trois grands services. D'abord, une plateforme pour comparer et souscrire aux offres d'énergie. Donc, il y a toujours des fournisseurs plus compétitifs, par exemple,
donc,
que les tarifs réglementés.
Donc, tout ça, sur votre plateforme, on les voit. Ils sont tous
exactement,
alignés les uns.
Exactement, on peut souscrire directement dessus. Et ensuite, c'est aussi des services pour réduire sa consommation d'énergie. Et donc là, on parle d'isoler son logement, d'installer des systèmes de chauffage qui soient performants et qui soient écologiques. Mmh. Et le dernier volet de solution, c'est de devenir son propre producteur, donc en installant des panneaux solaires en autoconsommation.
Donc, trois parties. Votre solution a pu voir le jour grâce aux données des compteurs Linky. C'est de là que tout est parti?
C'est d'abord parti d'un besoin, je dirais, des particuliers. Sur les sujets énergie, on est quand même parfois mal accompagné. Mais effectivement, le côté données est un peu au cœur de notre démarche. En fait, chaque utilisateur d'Hello Watt, il a accès via l'application, en créant un compte en quelques minutes, ou dans un espace personnel, à ces données des compteurs communicants. Donc, c'est les données des compteurs Linky en électricité et Gaspar en gaz. Et à partir de là, donc, on peut suivre sa consommation en euros et en kilowattheure. On peut aussi la comprendre. C'est-à-dire que nous, on va être capable de déterminer
quelle
va être la part du chauffage, la part
EDF
de l'eau chaude.
Mais EDF le fait, ça. Quand on va sur notre appli EDF particulier, on l'a. Moi, je sais que c'est les PC qui... les PC des enfants qui consomment plus.
Tout à fait. Alors, il y a parfois des choses qui sont faites de façon statistique. Nous, là, on va utiliser la corrélation avec la température locale extérieure pour avoir quelque chose de très spécifique.
Donc vous prenez
et à partir de là, surtout, on leur permet d'agir aux particuliers. C'est-à-dire que s'il y a une surconsommation de chauffage, qui va être, on va comparer à des logements similaires, par exemple, ou voir qu'un logement est trop thermosensible, et on va pouvoir proposer des solutions concrètes et personnalisées et quantifiées.
Donc vous faites entrer l'intelligence artificielle grâce aux données pour nous proposer les meilleures solutions possibles. Par exemple, le gouvernement a baissé les aides pour rénover notre logement là récemment. Qu'est-ce que vous conseillez?
Alors oui, il y a eu différents mouvements. Donc il y a eu effectivement une baisse des aides sur certains travaux d'isolation. Il y a eu dans le même temps une hausse des aides aussi sur tout ce qui est les installations de pompes à chaleur et de chauffage bois.
C'est la folie, la pompe à chaleur.
Vous êtes très concernée, vous, Nathalie Carré.
Oui, alors sauf que j'ai refusé d'installer une pompe à chaleur. Alors, on ne comprend pas cette espèce de, finalement, de philosophie, de doctrine gouvernementale qui fait qu'on oriente tout sur un truc, tout sur un autre. Et finalement, c'est très, très compliqué. On pense qu'il y a des aides, mais finalement, il n'y en a pas. Enfin, c'est quand même très compliqué, cette histoire.
Et là, vous y répondez.
Et là, ouais,
effectivement, nous, notre approche, c'est vraiment de rendre tout ça extrêmement simple pour les particuliers. Donc, c'est vraiment un accompagnement de A à Z sur le projet. D'abord, bien dimensionner quel est le projet, faire une étude technico-économique, combien ça coûte, quelles sont les aides et donc quel est mon reste à charge, et mettre en face les économies d'énergie sur la facture de chauffage, que nous, on est capable de quantifier précisément. Mmh. Ensuite, trouver le bon pro pour faire les travaux, et ça, c'est essentiel là-dedans. Et ensuite, gérer les aides pour que le particulier n'ait pas à les avancer et que tout ça soit très simple.
Donc, la gestion énergétique de A à Z, c'est gratuit pour nous, pour les consommateurs?
En fait, l'ensemble de l'accompagnement est effectivement gratuit, les conseils et l'accompagnement. Et ensuite,
Vous gagnez votre vie comment, vous, alors?
Du coup, si justement on est assez bon, dirais, quand le particulier passe par nous, par une solution qu'on propose, au moment où il va faire ses travaux et signer son devis.
Vous êtes rémunéré par
là, vous touchez une rémunération.
Une commission. Michel-Édouard Leclerc, vous êtes le président du comité stratégique des centres Leclerc. Vous êtes notre témoin du jour. Quel regard portez-vous sur ce genre de solution?
J'ai été voir son site. J'ai trouvé ça très bien fait. Et même à titre personnel, m'étant lancé dans des travaux, j'avais la chance d'avoir quelques collaborateurs de Leclerc. Sur les économies d'énergie, etc. Mais je me rends compte que c'est très technique pour les gens, c'est très compliqué.
Très compliqué.
Mais en même temps, ces aides, elles existent. C'est intéressant, que ce soit les pompes à chaleur. et ou l'isothermie, enfin le pardon, comment on appelle ça,
les travaux d'isolation.
Les travaux d'isolation, il y a beaucoup d'argent qui est disponible, il y a des certificats d'économie d'énergie.
Vous en proposez d'ailleurs des CE.
On en propose. Alors je vais pas donner des leçons à Sylvain parce qu'on s'est pas mal planté sur l'électricité. Il faudra qu'on revienne sur ce marché avec les énergies alternatives. Faut dire qu'on s'est lancé au moment où le secteur flambait. Mais c'est très important, moi, je pense, de se faire accompagner. D'abord, financièrement, il y a beaucoup d'aides. J'insiste là-dessus par rapport à votre remarque. Je pense qu'il y a beaucoup d'aides, mais on ne sait pas aller les chercher. Et souvent, quand on fait les travaux, l'architecte lui-même, ou s'il n'y a pas d'architecte, les techniciens ne sont pas... ne vont pas chercher cette information. Elle est compliquée à trouver et je trouve que son appli, l'appli de Sylvain, je ne dis pas ça parce qu'il est breton. Hein,
mais, oui, on a découvert ça pendant la pub, ouais. Ils sont en majorité.
Mais son appli est très bien faite et c'est un vrai marché pour lui. En tout cas, je lui souhaite de prospérer.
Ça, c'est pour notre consommation d'énergie à la maison. Quand on pense à l'énergie, on pense au prix du carburant, Michel-Édouard Leclerc. Est-ce que vous avez l'impression que l'État fait assez concernant les prix du carburant? Il a donné un coup de pouce, hein, avec les 18 centimes par litre. Est-ce que pour vous, c'est suffisant?
Non, je pense que là, la mesure était générale. Alors, n'oubliez pas, dans le débat pré-présidentiel, il y avait le débat, est-ce qu'on fait des mesures ciblées ou des mesures générales? Donc, le gouvernement a un peu été entre les deux, sous pression électorale. Je pense qu'on va revenir, et c'est l'idée à cause des finances publiques, de la limitation des finances publiques, je pense qu'on va arriver à des mesures plus ciblées. Le gouvernement, évidemment, ne maîtrise pas le marché pétrolier, mais je pense que si on veut avoir plus d'impact auprès des gens qui en ont le plus besoin, il vaut mieux cibler ces aides que, comme le dit le président de la République, que tout le monde, moi, etc., on bénéficie de.
Donc ça signifie quoi, vous, par exemple,
rapport aux revenus, par rapport aux distances parcourues, enfin, ça serait.
Il y a d'abord les usagers qui en ont besoin pour leur travail. Il y a des personnes qui, en termes de revenus, ont une voiture, ils sont en province, ils sont en zone rurale, ça faut les... Il y a des critères, c'est multicritères. Peut-être que Sylvain pourra conseiller le gouvernement.
Donc vous prenez des aides ciblées, Michel-Édouard.
Moi, je prône des aides ciblées. Je pense que c'est fini les élections présidentielles, donc je peux dire des choses. Moi, je trouve que quand même les entreprises, tout ça, ont été extrêmement bien accompagnées pendant le Covid.
Pendant les deux années,
d'ailleurs, même des particuliers. Maintenant, comme on dit, le quoi qu'il en coûte, ça coûte. De toute façon, on finira par payer ça par une inflation
à
un moment donné. Donc je préfère qu'on donne plus d'argent à ceux qui en ont le plus besoin. Et sur le plan de l'énergie, il y a des régions qui sont plus froides que d'autres. Et puis, il faut changer de modèle. Donc,
peut-être revoir la fiscalité, finalement.
Revoir la fiscalité aussi, oui.
Vous restez avec nous, Michel-Édouard Leclerc, président du comité stratégique des centres Leclerc. Merci à Sylvain Lefaller pour HelloWatt. Vous accompagnez tous les particuliers pour réduire nos dépenses énergétiques. Aller faire un tour, c'est vraiment, vraiment bien fait. Merci à vous. Il est 13h24 sur Europe 1.
Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag.
Bien sûr qu'elle bouge cette France et on le voit chaque jour entre 13h et 14h sur Europe 1 autour d'un grand témoin du jour. Aujourd'hui dans cette émission spéciale consacrée à notre pouvoir d'achat, nous sommes ravis d'être avec vous Michel-Édouard Leclerc. Vous êtes le président du comité stratégique des centres Leclerc. À mes côtés toujours Nathalie Carré, en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Alors Michel-Édouard Leclerc, vous avez lancé, vous nous l'avez dit au début de l'émission, un bouclier anti-inflation avec les 120 produits de consommation les plus achetés chaque jour, hein, tous ces produits concernés. Et vous avez publié dimanche une tribune dans les colonnes du JDD dans laquelle vous avez plaidé pour la création d'un ministère de la consommation pour permettre aux consommateurs, à nous tous, de mieux faire entendre notre voix. On ne les protège pas assez, les intérêts des consommateurs en France ?
Mais je pense qu'au minimum, il faudrait quelqu'un pour arbitrer entre toutes les demandes des différentes corporations. Il y a un ministère de l'Agriculture, un ministère de l'Industrie, un ministère des Transports. Il n'y a pas de ministère de la Consommation.
Depuis 2017, il n'y en a pas.
Bruno Le Maire, vous direz que c'est lui qui joue ce rôle. Mais enfin, moi, je pense que c'est important d'avoir quelqu'un qui parle aux gens, le langage des gens, et qui les entend et qui les comprend. Et ça manque aujourd'hui. Parce qu'effectivement, on a plein de gens savants, on a plein de gens qui disent là, moi, l'écologie, il faut que ce soit plus cher, l'agriculture, il faut que vous payiez plus cher, le transport, ça coûte plus cher. Et au milieu, je pense que c'est important. D'avoir un ministre qui parlerait un peu comme un syndicaliste des consommateurs. Et qui,
le 60 millions des consommateurs version ministre.
Oui, ouais, je pense que ça, on est à un moment de la mutation du modèle alimentaire, de modèle énergétique, on vient d'en parler, etc. C'est
donc
important
on a besoin
que quelqu'un
d'une voix.
Comprenne tout, en fait.
Ouais, ouais.
Et pourquoi ce serait pas vous, Michel Leclerc, la ministre de la Consommation ?
Je suis trop partie. Je suis moi-même dans. Entre nous, il n'y a pas de ministre. Enfin, je n'ai jamais rencontré mon ministre du Commerce, mais.
Le dernier, il y a eu Hervé Novelli.
C'était en 2010,
Hervé
Novelli, ministre. C'est quand même
dingue.
Hein.
Si vous réfléchissez
bien. Non, mais les distributeurs font le job eux-mêmes.
Mais vous aimeriez être le ministre de la Consommation ?
Non, je me trouve plus utile auprès des gens, sur le carrelage des hypermarchés. J'ai plein d'infos. Et puis, je pense que, en tant qu'acteur, j'ai plus de levier aujourd'hui qu'un ministre qui serait forcément un peu au bottes d'un parti ou sous les ordres
libre.
De Jupiter. Mais je pense que, par contre, il y a place pour quelqu'un qui ne vienne pas forcément d'un milieu professionnel et qui soit là à l'écoute des usagers. Des consommateurs. La consommation, c'est pas tout dans la vie, mais c'est quand même une manière d'être, c'est une manière d'exprimer aussi son identité, à travers des choix matériels, certes, et il n'y a pas ces relais-là.
Vous avez un nom en tête, alors, quand vous avez écrit cette tribune, vous avez pensé à quelqu'un, forcément ?
Je pense que dans ce monde assez machiste, dans un monde aussi qui a une sémantique très start-up, la novlangue, que pas grand monde comprend. Hein. Il y a l'entre-soi des nouvelles technologies. Mmh. J'aurais mis quelqu'un d'un peu rond, d'un peu bienveillant, qui capte les demandes exprimées de manière primaire, primitive, simple. Et qui soit... Le terrain.
Donc vous aviez un nom en tête.
Ouais, j'ai des idées.
Qui,
ouais.
Par exemple, comme ça, si notre président nous écoute et notre nouvelle première ministre, peut-être qu'elle va agir.
C'est l'idée. Je pense que c'est l'idée qu'il faut faire passer. Après, vous savez bien, il suffit de présenter un nom
pour qu'il soit un interlocuteur des consommateurs.
Il n'y a pas que la consommation dans la vie. Ça ne peut pas être un distributeur, ni un agriculteur, ni un industriel. Et donc, voilà.
Quelqu'un qui reprend tous ces mondes et qui plaide
dans les arbitrages avec tous ces gens sérieux qui n'ont que des factures et des bonnes raisons, de dire, attendez... Nous, de notre côté, on ne peut pas tout prendre.
Vous dites, en fait, si j'interprète, vous dites finalement baisser la TVA, parce qu'il y a des gens qui disent qu'il n'y a qu'à baisser la TVA. Finalement, vous dites non, on peut encore chacun faire des efforts dans notre coin. Baisser la fiscalité, ce n'est peut-être pas forcément la solution là, tout de suite.
En fait, les trois quarts des gens qui voient arriver cette inflation ne l'ont jamais vécu. Moi, j'ai vécu 10 ans d'inflation. Le premier appartement que j'ai acheté, j'ai emprunté à 14%.
Ah oui.
Ça, vous voyez ?
Ça laisserait vers, oui, voilà. Effectivement.
Donc, en fait... Ma génération sait faire.
Oui.
C'est pour ça que je dis d'ailleurs que quand je dis rond, qu'il y a un peu de bouteille, qui vous voyez, et quelqu'un qui sait ce qui va arriver. Et donc, c'est dur pour les petits budgets, mais il n'y a pas que les petits budgets, les classes moyennes. Et puis, ce n'est pas pareil en zone rurale et en zone urbaine. Il y en a qui ont des transports collectifs. Voilà. Et c'est simplement qu'il faut que les usagers soient représentés. Il y a l'UFC Que Choisir fait ça très bien. 60 millions de consommateurs qui a la version institutionnelle le fait bien. La CLCV, il y a plein d'ONG en France.
Oui.
Mais ils n'ont pas d'interlocuteurs qui relayent auprès des autres ministres
les besoins
des consommateurs.
Veut un ministre de la consommation. Vous parlez de la consommation, Michel-Edouard Leclerc. Justement, est-ce que nos habitudes face à cette hausse des prix sont-elles en train de changer ? Est-ce qu'on va aussi souvent dans les magasins en ce moment faire nos courses ?
Ouais, alors un peu moins fréquemment que. Enfin non. En fait, on achète des moins gros caddies, mais on y va plus fréquemment. Et on ne va pas que dans une enseigne, on va dans plusieurs enseignes.
Donc ça change.
Donc, c'est ça. Et puis, il y a beaucoup d'informations qui arrivent par Internet, par le digital. Et donc, avant de se déplacer, parce qu'on se déplace quand même, c'est un lieu de vie, c'est quand vous habitez une ville moyenne, aller dans le Leclerc, dans l'Inter. Mais avant de se déplacer, on regarde sur le site des Drive. On compare les prix. C'est facile, tout est affiché. Vous voyez, où on compare entre Amazon et...
On a le temps de faire ça ?
Oui, bien sûr. Oui. On regarde avant. Et les consommateurs, ça c'est la période d'aujourd'hui, ils veulent comparer le ticket de caisse avec
bien
celui
sûr.
D'avant.
Alors, combien le panier moyen aujourd'hui ? Il est un peu baissé ?
Le panier moyen, dans un hypermarché, c'est 45 à 55 euros selon la région.
Ça a baissé.
Mais par contre, au lieu de venir...
Une seule fois, on vient
deux, trois fois. Puis alors, les arbitrages sont plus longs, c'est en famille, et ça se dispute dur. Et puis donc, il y a l'envie de manger mieux, moins de sel, moins de sucre, etc. Puis il y a le prix des choses. Quand le bio est 50% plus cher que le produit naturel, local, Même le modèle du bio, il est en crise.
Il est en crise. Vous restez avec nous, Michel-Edouard Leclerc, justement pour faire face à cette hausse des prix. Il faut pouvoir gérer son budget. Eh bien, nous, on a trouvé là aussi une solution grâce à vous, Anna Gojurowska. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans La France Bouge. Vous êtes la fondatrice de La Petite Budgéteuse. Avant de créer La Petite Budgéteuse, vous travaillez dans les ressources humaines, dans une usine de sidérurgie. Vous avez décidé de monter La Petite Budgéteuse après un mauvais passage. Hein. Vous avez eu des problèmes financiers, je le disais tout à l'heure. Vous aviez 17 698 euros de dette en 2019. Donc, vous avez décidé de créer des outils pour mieux gérer votre budget. Parce que vous aviez, il faut le dire, 6 crédits conso en même temps. Hein. C'était en 2019, ça.
C'est ça.
Alors, et vous vous êtes dit, je vais créer des outils. Vous avez créé un compte Instagram qui s'appelle Anna, la petite budgéteuse, avec des petits conseils, des posts tous les jours de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Votre communauté s'est agrandie.
Oui.
Et là, c'est un business.
Oui, tout à fait.
Mais racontez-nous.
Donc oui, à la base, ce compte Instagram, c'était un peu comme mon journal intime. Donc je l'ai fait pour moi, tous les outils que je crée, c'était pour moi, pour pouvoir m'aider dans ma reprise financière en main. Il fallait que je trouve des solutions parce que, voilà, avec...
Vous gagnez bien votre vie à l'époque. Vous étiez à plus de 2500 euros par mois, je crois, net de salaire.
Mais c'est là que mes problèmes financiers, ils ont commencé, en fait. J'ai fait une reconversion professionnelle. J'ai accédé à un poste beaucoup mieux rémunéré. Et en fait, je suis devenue encore plus négligente sur mon argent qu'avant.
Donc, vous avez dépensé.
J'ai dépensé sans compter.
6 crédits conso. Et donc, là, vous avez monté ce compte Instagram qui était devenu votre journal intime, avec une communauté qui ne cessait de grandir. Vous y racontiez quoi sur ce compte, par exemple, un ou deux exemples.
Alors, les exemples, je suis très transparente en fait sur les réseaux sociaux. Je montre vraiment tous les chiffres de mon budget, ce qui est assez rare quand même en France.
Non, c'est hyper tabou encore.
Voilà,
en France,
je montrais combien je gagne. J'avais un bon salaire, hein, donc j'avais un peu la trouille au départ.
2500 euros.
Je me disais c'est un peu plus. J'étais à 3000 euros.
Ah bah 3000 euros net.
Voilà,
ouais.
Donc je craignais en fait d'avoir un regard de personnes qui vont me dire mais comment ça se fait que tu gagnes 3000 euros et tu nous dis que tu t'en sors pas. Donc je voulais en fait que les gens ils comprennent que on peut bien gagner sa vie et en même temps on peut mal gérer son argent.
On dépense mal
son argent. Et donc j'étais surprise en fait que j'ai pas eu des commentaires ou des messages négatifs.
Vous n'avez pas fait insulter.
Je me suis jamais fait insulter. Au contraire, beaucoup de personnes s'est retrouvée dans mon parcours. Et donc oui, petit à petit, je commençais à partager les outils. D'abord, ils sont toujours partagés
gratuitement. Alors, c'est quoi vos outils qu'on comprenne bien?
Mes outils, donc c'est très simple. Moi, je prends les retours à des basiques. Donc, un cahier, un stylo, la plupart du temps, c'est suffisant. On peut aller sur des applications pour des jeunes, peut-être c'est mieux. Mais quelqu'un qui ne connaît rien à Excel et il veut pas toucher à son téléphone,
donc, il
peut très
stylo,
bien
cahier stylo quoi dessus
et on fait son budget avec une méthode budget zéro. Donc en fait, on prévoit ses dépenses à l'avance. On dépense en fait d'abord son argent sur papier en disant voilà, ça c'est
les charges fixes d'abord.
Voilà, la charge fixe, les crédits et ensuite les dépenses variables et bien sûr l'épargne parce que j'attache énormément de l'importance à l'épargne pour préparer des petits projets et sortir des crédits parce que c'est ça un peu l'idée de ne pas financer des choses avec des crédits 3 fois, 10 fois sans frais, mais de faire des petites épargnes tout le mois pour pouvoir s'offrir le voyage ou les produits ou des choses qu'on souhaite avoir.
Et ça s'est transformé en start-up.
Start-up, va peut-être un peu loin.
C'est une petite entreprise.
Donc oui,
c'est votre métier principal. Aujourd'hui,
c'est mon métier
principal.
Vous
vous rendez compte du chemin parcouru?
Oui, mais j'ai encore du mal.
mais c'est incroyable, votre histoire.
Avec juste du bon sens, finalement. Mais c'est pas livré à tout le monde à la naissance, le bon sens.
Non, mais c'est vrai que j'ai l'impression de vraiment servir à quelque chose. Donc, c'est une mission. C'est devenu une mission pour moi. Donc, je partage énormément de choses. On peut venir sur mon site internet et prendre des outils des imprimés, des choses gratuitement pour tester, pour voir, parce que c'est pas tout le monde qui aime bien gérer des choses sur le papier. Donc
et puis vous aviez commencé par réduire, vous avez fait une méthode, je sais plus comment, la méthode où vous preniez un crédit à la conso, oui. Vous avez essayé,
oui,
vous prenez
méthode,
plus gros,
oui, méthode boule de neige,
alors
ça s'appelle.
C'est quoi cette méthode boule de neige pour nos auditeurs?
Alors ça c'est bien pour des personnes qui comme moi avaient beaucoup de crédits, donc en fait ça, on arrête de saupoudrer, donc payer des petites mensualités sur des crédits qui durent longtemps. Et on se concentre sur le crédit le plus petit, celui-là qui a les soldes le plus petit. Et on injecte les maximums d'argent, on essaie de réduire les autres mensualités.
Pour l'éliminer. Éliminer crédit après crédit.
Une fois qu'on a éliminé, on se sert de la mensualité qu'on n'a plus pour l'injecter dans le suivant. En fait, ça permet de rembourser les crédits beaucoup
malin.
Plus rapidement.
C'est malin, c'est du bon sens, mais ça marche. Votre regard là-dessus, Michel-Édouard Leclerc?
J'ai trouvé ça très malin parce que beaucoup de gens sont
concernés
à 5 euros près, hein, oui. Vers le 15 du mois. Et en fait, vous avez renoué avec quelque chose de bon sens, parce que c'est vrai que ça ne donne pas des revenus supplémentaires, ce que je veux dire, hein, mais quand vous avez une carte de crédit, vous découvrez votre approche du découvert, c'est toujours un drame et c'est trop tard. Et vous, ce que vous proposez, c'est de revenir à des espèces aussi, ouais. Et de faire des enveloppes,
ah, c'est
et
bon,
du
ça.
Coup, vous voyez
oui.
Votre petit tas.
Oui,
de monnaie ou de billets qui diminue, donc ce n'est qu'un ersatz. Mais vous voyez en fait à quel moment vous en êtes de votre enveloppe,
ouais,
et vous avez fait plusieurs enveloppes par fonctionnalité. Ouais. Je trouve ça très malin. Et c'est vrai que c'est une discipline, mais en même temps, on s'évite le choc.
De la fin du mois.
De la fin du mois, ouais.
Et Anna, vous avez une partie payante parce qu'il faut bien gagner votre vie là,
oui.
Avec votre nouvelle activité.
Oui.
Donc, quelle est la partie payante de la petite budgéteuse?
Alors, la partie payante, elle concerne l'atelier où on peut venir apprendre à construire son budget, donc faire le point, repérer où se trouvent nos problématiques pour ensuite construire son budget et apprendre à le suivre. Donc, je donne une méthode, c'est sous format vidéo assez court, hein, ça dure 2 heures. Bon, si on applique tous les exercices, normalement, ça dure un petit peu plus longtemps. Et ensuite, j'ai auto-édité un cahier budgétaire qui permet de faire le suivi des finances. Donc, actuellement, il est en rupture de stock, mais il y a sa version.
Elle cartonne pour nous aider à gérer notre argent.
Bientôt distribué dans les centres.
Son livre est distribué dans tous les espaces culturels.
Ouais, et il y a les livres qui étaient faits avec les éditions Larousse qui est sorti au mois de mars.
Ça s'appelle Mieux gérer mon argent pour vivre mieux aux éditions Larousse.
Il est parfait, Michel-Édouard Leclerc. Merci à vous, Anna Gajurowska, d'être venue aujourd'hui dans la France Bouge, fondatrice de la petite budgéteuse. Si vous souhaitez la suivre sur Instagram, c'est vraiment bien fait votre compte. Bravo, bravo à vous. Michel-Édouard Leclerc, vous restez avec nous. Là maintenant, vous allez accompagner et coacher un entrepreneur qui se lance. Vous êtes prêts?
On
y va.
Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag.
C'est parti pour les trophées Europe 1 de l'avenir. Chaque jour, elles ou ils exposent leur projet d'entreprise. Ils ont une minute pour convaincre notre témoin du jour. Il est exigeant, il est attentif, il est bienveillant aussi et c'est un expert. Aujourd'hui, nous sommes avec Michel-Édouard Leclerc, président du comité stratégique des centres Leclerc. Oui, nous sommes dans une France bouge consacrée à notre pouvoir d'achat. Nous sommes toujours avec Nathalie Carré de la CCI. Et aujourd'hui, un projet qui a été lancé il y a 6 mois. Bonjour Mathieu Bournet.
Bonjour.
Ça va?
Eh ben, très bien. Heureux d'être ici.
Nous aussi, on est ravis de vous accueillir. Vous allez parler bien en face du micro, sinon on ne va pas bien vous entendre. Vous avez 21 ans et vous êtes le cofondateur de Studéco. C'est une application pour que les étudiants aient des réductions. Vous venez du Mans et vous avez toujours été un peu dans cette émission de solidarité. Entre l'âge de 16 ans et 20 ans, vous avez été président de 3 associations différentes. Et cette idée de Studéco est partie de la crise du Covid. Le reste, vous allez nous le raconter. C'est quoi Studéco? Vous avez une minute pour nous convaincre.
Eh ben c'est parti. Alors Studéco, en fait, c'est une application mobile qui est 100% gratuite et qui propose des promotions aux étudiants. Voilà, tout bêtement, on s'est dit, après le coronavirus, les étudiants, ils ont traversé une crise psychologique, on n'en parle pas beaucoup, mais ça a été dur, et une crise du pouvoir d'achat. Cette émission est dédiée au pouvoir d'achat. Et donc, on s'est dit, avec un pote à moi, comment on va réussir à promouvoir des promotions dans des lieux où les étudiants vont et dans les lieux où les étudiants ne vont pas. Donc, on a on a rassemblé dans ma ville du Mans 60 commerces partenaires en leur proposant des promotions pour les étudiants. Et ils ont accepté et aujourd'hui, on génère des centaines de coupons de réduction chaque semaine et donc on a un petit impact dans ma ville du Mans pour les étudiants. Voilà comment ça fonctionne. Ça fonctionne avec un système de QR code. Alors, l'étudiant, il s'inscrit via son adresse mail étudiante. Je crois que Nathalie a essayé de s'inscrire ce matin.
Mais je ne suis plus étudiante.
Et voilà.
Mais vous avez monté sur votre âge.
Non, il faut aller d'une école.
Ah, d'une école.
Bon. Voilà, vous vous inscrivez, vous sélectionnez votre offre un peu comme sur Uber Eats et vous scannez le QR code au moment de l'encaissement. Ça vous renvoie une carte étudiante dématérialisée et cette carte étudiante, vous la montrez à celui ou celle qui encaisse et automatiquement, vous avez une réduction. On parle de réduction de moins de 5% chez Super U, de moins 20%.
Chez Leclerc, peut-être.
Peut-être un jour, faudrait que j'aille voir les adhérents
c'est
de la SART, mais c'est clair.
Je suis là pour ça.
Et voilà, c'est des promotions directes dans des boulangeries, par exemple les boulangeries Ange, où les étudiants vont avoir moins 20%, dans des boulangeries proches
c'est
de la
fini,
fac.
En fait, là, ça y est, on a tout compris, la minute est terminée. Mais on peut être étudiant à tous les âges, je disais, vous avez
oui, 26
ans, mais non, mais c'est stupide, c'est on peut être étudiant à 80 ans si on le souhaite. Mais vous êtes professeur, Nathalie, entre autres. Justement, Nathalie, quelles sont les forces et les faiblesses pour vous de Studéco?
Alors, vous êtes une alternative au cashback, qu'on connaît bien, et c'est vraiment réservé aux étudiants, vous l'avez dit, puisqu'il faut une email d'une école, une université pour s'inscrire. Et donc, ça facilite le ciblage. Et en plus, avec ce système, si l'établissement de la personne qui veut s'inscrire n'est pas dans votre liste, on peut vous le dire. Et ça permet, je suppose que ça vous permet de prendre attache avec l'établissement et de discuter d'un partenariat avec cet établissement pour la diffusion de l'appli, en ayant la preuve que votre concept plaît aux étudiants, puisque c'est une demande émanant d'un étudiant. Vous avez déjà, a priori, 3000 inscrits en 6 mois. Super début, donc bravo. Alors, quelques suggestions. Pour le moment, vous êtes au Mans, mais vous proposez en fait toutes les villes pour l'inscription sur l'appli. Ça peut être un peu frustrant pour vos futurs clients. Vous pouvez donc les prévenir que votre offre n'est pas encore dans leur ville et en profiter pour leur proposer de vous aider à vous implanter dans leur ville. Ils pourraient faire la promo de votre application auprès de leur commerçant préféré ou au moins vous mettre en relation. Et bien sûr, ils auront le droit à une petite récompense. Je suis allée voir sur le site de quelques commerçants partenaires au Mans. Il n'y a pas mention de votre solution. Je sais que c'est compliqué, mais peut-être que vous pourriez obtenir cette promotion des commerçants, puisque pour eux, c'est un peu moins de marge, certes, mais c'est plus de fidélité et la preuve d'un engagement auprès des étudiants. Et puis pour vous, évidemment, c'est plus d'inscrits et donc plus de possibilités de négocier des actions payantes. Alors après, sur nos moteurs de recherche préférés, quand on saisit réduction pour étudiants, il y en a. Alors c'est vrai qu'aucune n'est réservée aux étudiants comme vous, mais c'est vraiment compliqué de trouver sa place sur ce créneau. Donc pour le référencement internet, une seule solution déjà, c'est le contenu. Qui êtes-vous? Pourquoi vous faites ça? Vos partenaires? Comment vous aider à vous développer? Les témoignages des étudiants, les témoignages des écoles, etc. Mais avant ça, il y a un sujet de positionnement. Les réductions étudiantes ou le soutien aux études? Le premier saturé, pourquoi pas le deuxième? En effet, les années d'études devraient être les plus sympas, les sorties, la coloc, les copains. Bon, mais quand il faut choisir entre réussir ses études en y consacrant du temps ou manger correctement et avoir une vie sociale, c'est compliqué. En fait, vous êtes le compagnon qui allège la charge mentale financière des étudiants, leur apporte du réconfort et du bon temps en leur donnant accès à des économies VIP.
Merci.
Vous pourrez réécouter en podcast hein, ce que vous a dit Nathalie. Elle a raison, hein, il y a une lourde charge mentale pour les étudiants.
Mais bien sûr, les étudiants, avec la crise du coronavirus, ils ont été privés de job, ils ont eu des coûts supplémentaires, des coûts sanitaires. Et c'est vrai que, attendez, on évolue quand même dans un climat entre la guerre ukrainienne, la crise écologique, le Covid... pas très funny. Et là, avec l'inflation, quand même. Bon, Studéco, c'est essayer de leur donner, pas la solution miracle, je pense pas qu'il y en ait qu'une, mais c'est du moins essayer, à notre humble échelle, de faire un geste envers les étudiants dans les lieux populaires, voilà, comme je l'ai cité tout à l'heure. Voilà.
Qu'en pense Michel-Édouard Leclerc?
J'aurais deux conseils à rajouter à notre superbe équipe ici. La première, c'est effectivement, avant d'étendre la promesse à d'autres villes, il faut s'assurer de la réalisation. Ce qui veut dire qu'il faut le faire bien au Mans ou dans une autre ville, mais il faut vite déposer aussi la marque et le cahier des charges pour ne pas se la faire piquer dans les autres villes. Hein. Donc ça, il faut que vous investissiez un petit peu en droit là-dessus. Et la deuxième chose, c'est que c'est les 4 ou 5 ans qui viennent, vous allez... pas gagner beaucoup d'argent. Et au bout de 4-5 ans, ce public-là, il va partir parce qu'il sera plus étudiant et vous devrez le renouveler. Donc moi, je serai vous. J'élargirai la cible ou en tout cas, je préparerai le coup d'après pour garder comme client les étudiants qui ne seront plus étudiants. Donc, il faut trouver un truc pour que ça dure.
C'est une bonne idée. C'est une bonne idée, ça. Et on pourrait trouver Studéco chez Leclerc. C'est
on va lui organiser un rendez-vous, en tout cas.
Ah, c'est fait pour ça aussi, la France bouge. Comment on peut vous aider, Mathieu Bournet, là ? Vous avez, votre besoin immédiat, c'est quoi ? C'est toucher tous les étudiants de France, c'est ça ?
Alors, comme l'a dit Monsieur Leclerc, on va faire les choses étape par étape. On a lancé ce process au Mans. On veut voir comment ça fonctionne. Ça fonctionne bien. On veut aller dans. On est soutenu par la région Pays de la Loire. On veut y aller. Ouais. On a une région qui est à notre écoute. Et ça, c'est fortement agréable. Surtout quand on est jeune et quand on a le regard des politiques qui disent ah ben si, en fait, ils nous écoutent. Et ça, c'est fortement agréable.
Oui, il y a des choses positives. Hein,
mais il y a plein de choses positives. Et donc, nous, on a besoin de conseils. Voilà, c'est tout.
Et ben, vous êtes là pour ça.
Il a la niaque, ça s'entend.
Vous avez le sourire. Vous avez la pêche, et c'est ça qu'on aime à la France bouge. Merci à vous, Mathieu Bournet. Vous êtes le cofondateur de Studéco. Et puis vous aussi, chers auditeurs, si vous avez envie de nous envoyer votre projet d'entreprise ou si vous avez envie de venir pitcher, il n'y a qu'une seule adresse.
Et c'est e1-lafrancebouge@europe1.fr. Et promis juré, Charlotte Barrican et moi, on lit toutes les candidatures.
Et vous aurez peut-être la chance.
Faute d'orthographe, parce qu'elles sont très exigeantes.
Ouais, ça c'est vrai. Franchement, bon, on peut vous le dire, Mathieu, vous êtes très bon dans Studéco. Mais les fautes, orthographe.
Nathalie me l'a rappelé ce matin.
Hein, il va falloir revoir ça. Merci à vous d'être venus aujourd'hui dans La France bouge.
Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag.
Et c'est déjà la dernière partie de votre émission. La France bouge, ça passe toujours vite, Nathalie Carré.
Toujours
trop vite, surtout avec vous, Michel-Edouard Leclerc. Vous êtes le président du comité stratégique des centres Leclerc. C'est une émission spéciale consacrée à notre pouvoir d'achat. Vous nous l'avez dit depuis le début de l'émission, Michel-Edouard, il faut que chacun prenne sa part de responsabilité. Alors moi, j'ai juste envie de vous demander, vous avez 130 000 salariés chez Leclerc. Comment vous, Michel-Edouard Leclerc, vous aidez les salariés sur leur propre pouvoir d'achat ?
Alors d'abord, dans le contrat Leclerc, pour pouvoir exploiter le panonceau Leclerc, il y a une obligation, sinon on perd le droit d'exploiter le panonceau, c'est de distribuer 25% des profits avant impôt aux salariés sous forme d'intéressement, de participation, de gratification. Notre convention, notre branche a une convention qui déjà donne le 13e mois. Mmh. Je ne sais pas si, par exemple, dans les médias, vous avez un 13e mois. On assure ce 13e mois. Mais en plus, avec ce système, et Leclerc marche bien, on donne des 14e, des 15e mois. Il y a quelques magasins qui marchent moins bien, mais dès au premier profit, les propriétaires de magasins sont obligés de verser l'intéressement et la participation.
Donc ça, c'est une condition pour pouvoir...
C'est plus que la loi. Hein.
C'est beaucoup plus que la loi. Et puis, alors, la deuxième chose, c'est que nous augmentons beaucoup la masse salariale en ce moment parce qu'on a, 7000 postes à pourvoir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 7000 postes, là, cette année. Donc, on a
créé 7000 postes à pourvoir.
Nous recrutons. Et dans tous les métiers, les anciens métiers, je dirais, de bouche, les métiers historiques de bouche, on ne trouve plus... il faut les former aussi. Il y a beaucoup de... Mais aussi tous les nouveaux métiers du digital et tout ça. Donc, moi, j'adhère à votre message positif. C'est-à-dire que l'économie... Ça bouge beaucoup, mais il y a aussi de la positivité dans le nouveau modèle alimentaire, dans le nouveau modèle technologique. Il y a beaucoup de postes à pouvoir.
Et où dans toute la France ?
Et ça fera du pouvoir d'achat, bien évidemment, que tous ces emplois que nous allons créer à travers tout le territoire.
Ils ont des réductions dans les magasins, les salariés ?
Alors, chaque propriétaire de magasin a sa politique sociale différente. Moi, je n'interfère pas. Je défends la marque, mais chaque propriétaire de magasin est un indépendant.
Oui, c'est des indépendants.
Comme un Système U, comme un Intermarché, comme un Intersport. On oublie aussi que tout c'est... Il n'y a pas que l'alimentaire. Mais par contre, ils sont obligés de...
Mais ils ont un cadre.
Ils ont un cadre et tout de suite, ils ont adhéré. D'ailleurs, quand je dis ils sont obligés, ils adhèrent dès le départ.
Donc, vous prenez soin de vos salariés. C'est déjà la fin de votre émission. La France bouge, c'est terminé. Michel-Edouard Leclerc, vous êtes le président du comité stratégique des centres Leclerc. On était ravis de vous avoir aujourd'hui dans cette France bouge consacrée à notre pouvoir d'achat. On a des solutions. On l'a vu pendant toute la durée de l'émission. Et ça nous fait du bien, Nathalie Carré. Et nous, on se retrouve demain, Nathalie. On va découvrir un concurrent d'Amazon. C'est Rakuten France et son patron français sera autour de la table. Lui aussi, de La France bouge dans un instant, le flash, suivi de Christophe Ondelatte.